Le journal Yves Decamp, bonjour.
Bonjour. Le G7 dans le vif du sujet à Biarritz et Donald Trump dans son rôle de trublion. Sur l'un des premiers sujets de discussion, le dossier iranien, le président américain contredit le compte-rendu présenté par la France. La taxe française sur les GAFA sera-t-elle adoptée au niveau mondial et étendue dans son principe à tous les grands groupes? C'est ce dont discutent non loin de Biarritz le ministre Bruno Le Maire et le secrétaire d'État américain au Trésor. Des portraits d'Emmanuel Macron la tête en bas dans les rues de Bayonne, c'est le mode de manifestation qu'avait choisi ce matin les opposants au G7. Dans ce journal également, le PS qui se cherche toujours un avenir, pourquoi, comment, à son université d'été de La Rochelle. Les Rohingyas de Birmanie qui commémorent le deuxième anniversaire de leur exil au Bangladesh. Et puis une nouvelle BD sur Jean Moulin dont le musée rouvre à Paris. Paris qui fête aujourd'hui le 75e anniversaire de sa libération. Enfin la météo, beau et chaud, nous dira Jean-Michel Golinski.
France Inter.
Au G7, c'est parti dans tous les sens, comme à chacun de ces sommets au plus haut niveau, entre rencontres bilatérales et séances plénières. Tous les sujets sont abordés sans être forcément résolus, sur la Russie par exemple ce matin, ou l'Iran, on va y revenir. Mais d'abord, l'image de la matinée à Biarritz. C'était la rencontre Trump-Johnson, la première entre le président américain et le nouveau Premier ministre britannique, a priori très proche, et pas seulement d'un point de vue capillaire. Bertrand Galichet, vous suivez ce G7 de très près pour France Inter. Alors, l'homme du Brexit espère beaucoup de Donald Trump qui, pour l'instant, se contente de promesses.
Oui, le courant visiblement est passé entre les deux dirigeants qui se sont entretenus à l'hôtel du Palais en début de matinée, mais tout n'est pas réglé. Donald Trump voit en Boris Johnson l'homme de la situation pour faire sortir son pays de l'Union européenne. Les deux dirigeants parlent de conclure un accord commercial majeur, fantastique, après la rupture qui doit intervenir entre Londres et Bruxelles. Un bémol quand même, Boris Johnson se plaint des difficultés que doivent affronter aux États-Unis les entreprises britanniques dans un marché qui, dit-il, offre des opportunités immenses. Les négociations vont donc se poursuivre entre Londres et Washington sur fond de Brexit, situation politique étrange, alors que les autres pays européens présents ici à Biarritz ont récemment adressé une fin de non-recevoir à Boris Johnson sur ses demandes de renégociation du Brexit.
Alors dans un G7, beaucoup de choses sont dites et échangées. Chacun entend un peu ce qu'il veut bien entendre, hein, comme ce matin sur l'Iran.
Ah oui, l'objectif, vous le savez, est d'éviter à tout prix que le régime des Mollahs se dote de l'arme atomique. Ce matin, l'Élysée annonce que le G7 a demandé à Emmanuel Macron d'adresser un message à l'Iran. Alors, s'agit-il d'un mandat ? Donald Trump, en tout cas, fait machine arrière. D'abord, il dément en avoir discuté avec son homologue français, puis annonce qu'il soutiendra sa démarche tout en ayant sa propre initiative. Seule certitude, la clé de cette affaire est bien détenue par les États-Unis qui se sont retirés de l'accord conclu en 2015 avec l'Iran. Jusqu'à présent, le président américain n'avait jamais fait preuve d'un grand enthousiasme pour adhérer à une quelconque politique de dialogue avec les Iraniens. Rien d'étonnant donc à ce qu'il traîne franchement les pieds dès lors qu'il s'agit de se rapprocher de Téhéran ou même d'amorcer une désescalade.
Bertrand Galichet à Biarritz. Alors c'est peut-être en marge de ce G7 que vont se décider les mesures les plus significatives concernant les GAFA par exemple. On sait que le ministre de l'économie Bruno Le Maire discute dans sa propriété de Saint-Pé-sur-Nivelle, non loin de Biarritz, avec notamment le secrétaire américain au Trésor et le conseiller économique de Donald Trump, qu'il discute de la taxe française de 3% sur le chiffre d'affaires des entreprises du numérique, dont ne veulent pas les Américains bien sûr. Donald Trump a d'ailleurs menacé en représailles de taxer les vins français, mais un compromis pourrait être trouvé, Fabien Cazot. En tout cas, la France a fait une proposition.
Oui, un compromis qui serait trouvé dans un cadre international et non plus seulement franco-français, celui de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui travaille depuis plusieurs mois. Il s'agirait d'une taxe prélevée par les États dans lesquels les géants du numérique font du bénéfice, États-Unis compris. Donc, après tout, si Donald Trump nie dans ses tweets rageurs à la France le droit d'imposer les entreprises américaines, il ne se dit pas opposé au principe d'une taxe qu'il prélèverait, lui, aux États-Unis. La question fait débat au sein même de l'administration américaine et du coup, la France profite de ce G7 à Biarritz pour avancer ses pions sur le sujet. L'objectif de ces rencontres informelles chez Bruno Le Maire, c'est de donner des gages aux États-Unis. Non, la taxe française ni l'éventuelle future mouture de l'OCDE ne visent pas que les géants américains. Et oui, la France annulera sa taxe tricolore si un compromis compromis plus large est trouvé. Mais en attendant, nous confirme Bercy ce dimanche, pas question d'annuler ou même de suspendre le dispositif. Tant qu'il existe chez nous, il permet d'avancer au niveau international.
Fabien Cazot. Et pendant ce temps, les manifestants du contre-sommet se cherchent et cherchent la formule qui pourrait traduire au mieux leur opposition à ce monde de la croissance et du libre-échange que le G7 représente. Après le défilé d'hier à Hendaye et les échauffourées de la soirée à Bayonne, où les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau et de lacrymos, les anti-G7 organisaient ce matin une marche des portraits, quelques centaines d'entre eux brandissant des portraits du président Macron décrochés des mairies, le président la tête en bas pour mieux signifier, selon les manifestants, le manque de sens de sa politique, Mathilde Dehimy.
À l'heure dite, des militants brandissent par petits groupes leur portrait présidentiel tête en bas.
On souhaite que le discours soit en cohérence avec les faits. Actuellement, ce n'est pas le cas. Même si notre président se saisit de la problématique de l'Amazonie, par exemple, on sait bien qu'en contrepartie, dans la réalité, il est pratiquement prêt à signer les accords de commercial de libre-échange.
Ceux qui ont décroché les portraits risquent prison et amende. Certains tiennent donc d'autres portraits emballés.
Il n'a pas l'air très réglementaire, votre portrait.
Non, c'est ça. Je pense pas qu'on vient de chercher celui-là, c'est sûr.
Vous savez ce qu'il y a dedans ?
Ouais, mais je ne dirai pas.
Tableau et nouveau propriétaire déambulent dans les rues. Suzanne Georges, grande figure altermondialiste d'attaque, prend la parole.
C'est un crime de non-assistance à société en danger. Vous et vos camarades du G7 sont des assassins, des génocidaires en puissance.
À ses côtés, Esther, 18 ans, de Youth for Climate.
On en a marre des beaux discours, on en a marre d'être endormis par des paroles déguisées. Marre de ne pas être entendu et écouté par les gouvernements.
Tour à tour, Alternatiba, ANV COP21, Greenpeace dénoncent ce qu'ils appellent le vernis vert d'Emmanuel Macron. De grands engagements à l'international, en contradiction, disent-ils, avec la politique du gouvernement.
Mathilde Dehimy avec Olivia Branger à Bayonne. En politique, suite et fin des universités d'été, les Verts et les Insoumis à Toulouse, le PS à La Rochelle, où ce matin encore, c'est l'affaire Glucksmann qui faisait débat. La tête de liste du PS aux dernières européennes a proposé de dépasser les vieux partis sans les supprimer, mais de les fondre dans une grande alliance sociale et écologique. Les fidèles de François Hollande ont fait oups. Laurence Perron, c'est le genre de débat dont les militants PS raffolent.
Des militants regonflés par les mots du premier secrétaire, ni isolement, ni effacement. À défaut de faire une vraie ligne politique, ce sont les mots qui étaient attendus ici, Emma, militante parisienne.
Écoutez, il y a toujours des maladresses, moi ce que je vois c'est qu'il était là aujourd'hui, qu'il était là avec nous. Surtout aujourd'hui il siège au Parlement européen avec le groupe socialiste. Moi ce que je vois, alors il y a peut-être des maladresses, mais pour moi c'est insignifiant.
Raphaël Glucksmann a reconnu une certaine maladresse, mais sur le fond il ne lâche rien. C'est d'une certaine manière son rôle dans cette refondation, tenter de faire bouger les lignes.
Il faut dépasser les structures partisanes existantes et il ne faut pas se retrouver en 2021 à découvrir qu'on a plusieurs candidats qui représentent la social-écologie.
Une fédération de gauche, une fédération populaire comme certains...
Ouais, ça s'inscrit dans la tradition socialiste. Non, François Mitterrand, que je n'ai pas l'habitude de citer à toutes les sauces, eh bien, quand il a créé le Parti Socialiste, c'était aussi un dépassement de la SFIO.
Il y aura des frictions, des tensions, le premier secrétaire n'en fait pas mystère. Et à écouter Louis, qui milite dans le Val d'Oise, oui, le débat du dépassement n'est pas clos.
Il n'y a pas d'effacement, il n'y a pas dépassant, c'est un parti qui travaille, qui fait une ligne politique et après tout ça, la suite, ça viendra naturellement. Il faut qu'on change de ce modèle d'avant, on était censé dire oui, il faut qu'on mette telle personne, qu'on aille directement à l'élection. Ça vient naturellement après, quand on a fait du fond, quand on a fait de la politique.
On peut compter sur la rentrée des parlementaires socialistes début septembre pour d'autres disruptions. Là, ce sera l'entrée en scène de ceux qui entendent faire une vraie rampe de lancement pour l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve.
Laurence Perron à La Rochelle.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decan.
Au Bangladesh, le deuxième anniversaire d'un exil forcé pour les Rohingyas, la minorité musulmane de Birmanie, des dizaines de milliers d'enfants, de femmes voilées et d'hommes en pagne se sont rassemblés ce matin dans l'un des plus grands camps de réfugiés du monde pour commémorer ce qui fut pour eux un génocide. En août 2017, sous la pression de l'armée birmane, des familles entières avaient dû fuir leur pays à majorité bouddhiste après que leur village avait été brûlé. Plus de 10 000 Rohingyas avaient été tués, des milliers de femmes violées. Deux ans après, bien que la responsabilité de la junte militaire au pouvoir ait été dénoncée par les ONG, rien n'a changé. Comme le dit Nadine Epstein, le porte-parole d'Amnesty International en Asie, Nicolas Becklin.
Il y a 2 ans, donc, on a vu une campagne de nettoyage ethnique qui s'est soldée par un exode de plus de 700 000 personnes, hommes, femmes, enfants, au Bangladesh. Et on n'a vu aucune amélioration malgré la documentation qui a été faite sur les exactions, viols, meurtres, incendies des villages, arrestations, disparitions forcées, etc. Et au contraire, ce qu'on voit, c'est que la population Rohingya qui est restée dans l'État du Rakhine vit toujours dans une sorte de prison à ciel ouvert, sans possibilité de se déplacer, sans droit de citoyenneté. L'armée birmane refuse de se réformer, refuse d'accepter les responsabilités pour les crimes qui ont été commis contre les Rohingyas et au contraire continue dans l'impunité la plus totale ces exactions.
Des exactions que n'a jamais vraiment dénoncé la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi. Prix Nobel de la paix 1991 et un peu tombé de son piédestal depuis. En sport, ça devrait être bon pour Christophe Lemaître et Reynel Lamotte sur 200 et 800 mètres s'ils n'ont pas réussi hier soir à Charletti les minima requis par la Fédération française d'athlétisme. Ils sont dans les clous de la Fédération internationale et devraient donc décrocher leur billet pour les mondiaux de Doha fin septembre. En Ligue 1 de football, les résultats de la soirée, Angers bat Metz 3-0, Bordeaux gagne à Dijon 2-0, Nantes l'emporte à Amiens 2-1 et Brest bat Reims 1-0, match interrompu une petite minute pour insulte homophobe, comme l'avait été la semaine dernière le match de Ligue 2 Nancy-Le Mans. C'est une première donc cette fois en Ligue 1. Sous la menace d'une interruption définitive, la suite du match s'est passée sans encombre. À suivre ce dimanche, Monaco-Nîmes, Strasbourg-Rennes et Paris-Saint-Germain-Toulouse. C'était il y a 75 ans, jour pour jour, Paris outragé mais Paris libéré par lui-même et par les soldats de la 2e DB, auquel rend hommage un nouveau musée de la Libération, musée du général Leclerc et musée Jean Moulin. Les soldats de la France libre et les résistants associés dans un même espace, place d'Enfer Rochereau, à l'endroit même où le colonel Roll Tanguy, commandant régional des FFI, avait installé son quartier général. C'est à tous ces héros de 44 et des années précédentes également qu'une collection de BD rend aussi hommage, intitulée Les Compagnons de la Libération. Son dernier opus vient de sortir. Il se consacre justement à Jean Moulin, Jacqueline Pétros.
Beaucoup de collèges et lycées portent son nom. Chargé en 42 par le général de Gaulle d'unifier la résistance, Jean Moulin est dénoncé et arrêté. Il meurt en 43, torturé par Klaus Barbie, sans avoir parlé. Faire une BD sur ce héros et ce moment de sa vie est capital. Mais pour l'historien Jean-Yves Le Naour, scénariste de Jean Moulin, il faut trouver l'équilibre entre la fiction et l'histoire.
L'histoire, c'est un ensemble de codes, de rigueur, d'efforts, d'impartialité, alors que la fiction, et donc la BD appartient à ce genre, c'est la liberté. Même si c'est de la bande dessinée historique, et même si on doit restituer effectivement une véritable histoire. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le registre de l'humour, on peut utiliser le registre de l'émotion, ce que l'historien s'interdit de faire dans ses ouvrages. Alors que là, comme le cinéma, le scénariste cherche à prendre le lecteur par l'émotion, parce que si on est ému, finalement, on comprend.
Tout premier à s'élever contre la tyrannie, les compagnons de la libération n'étaient que 1038.
Il y a des riches, des pauvres, des bourgeois, des ouvriers, des royalistes, des communistes. C'est vraiment un kaléidoscope de la France. C'est ce fameux peuple de l'ombre qui se sacrifie.
La mise en scène de Marco et les dessins d'Olgado restituent la tension de ce temps de tous les dangers pour ceux qui décidèrent de dire non.
Voilà, une BD Jean Moulin, publiée par les éditions Bambou dans la collection Les Compagnons de la Libération. Le nouveau musée de la Libération de Paris et musée Jean Moulin sera inauguré par Anne Hidalgo qui présidera aux cérémonies militaires de la place du 25 août tout à l'heure. Avant le défilé, une cinquantaine de véhicules militaires d'époque et des figurants en costume à la mode de 44. Des véhicules de 44 sûrement pas conformes aux normes anti-pollution, mais on fera une exception, sachant que ce dimanche à Paris, pollution oblige, seuls les véhicules portant vignette critère de classe 0, 1 ou 2 sont autorisés à circuler. Et ce sera la même chose demain à l'intérieur du périmètre de l'A86. Dans un instant, la météo. D'abord, ce mauvais week-end décidément pour la race bovine. C'est d'abord une génisse d'un an et demi qui a été percutée par une Porsche Cayenne dans le Doubs. Le conducteur de la voiture a perdu le contrôle et finit sa course dans un champ. Le troupeau pris de panique s'est éparpillé jusqu'à 2 km de là. Mais ce n'est rien par rapport à cet autre troupeau du Jura qui s'est retrouvé sur la voie ferrée du TGV Lyria entre Paris et Lausanne. Et là, une véritable boucherie, Laurine Benchebria.
Et le choc a été d'une extrême violence. Certaines vaches encastrées dans le TGV à l'arrivée des secours, d'autres coincées sous le train. Vers 15h, le TGV Lyria fauche un troupeau de vaches qui errent sur les voies à hauteur de la gare désaffectée de la Joue. 16 bêtes meurent sur le coup, 6 trop lourdement blessés doivent être euthanasiés par un vétérinaire. Un équarisseur est appelé en renfort pour dégager les bêtes. L'accident endommage très fortement le train. Impossible de reprendre la route. Pas de blessés chez les 240 passagers à bord qui sont pris en charge par un autre TGV. Ils repartent vers 19h30 et arrivent à Lausanne avec 5 heures de retard. La gendarmerie a ouvert une enquête pour déterminer comment les vaches, appartenant à plusieurs propriétaires, ont pu se retrouver sur les voies.
Oui, clôture électrique défaillante ou négligence d'un randonneur, pas plus d'indications pour l'instant. La météo, Jean-Michel Golinski.
Du beau et du chaud en général cet après-midi et demain sur la majeure partie du pays avec des conditions au beau fixe, du soleil, des températures au-dessus des normales entre 30 et 36 degrés avec dans le détail 30 à Mulhouse et Perpignan, 31 à Besançon et Metz, 32 à Rouen, Langres et Ambérieu. Il fera 33 degrés dans le nord sur l'Île-de-France, le Lyonnais et la Camargue, jusqu'à 36 degrés en moyenne vallée du Rhône et du Limousin au Nivernais. Avec toujours ce risque d'orage en cours d'après-midi pour la Provence et la Corse. Par contre, la façade atlantique est un peu en retrait du beau fixe. Les entrées maritimes de la matinée vont laisser la place à un ciel variablement ensoleillé. Ce sera exactement la même chose demain avec des températures maximales de 25 à 27 degrés sur les bords de l'océan.